pas de parler de l'art de la céramique dans le monde entier, depuis le néolithique jusqu'à nos jours, voire dans le futur. L'idée était bien de se cantonner au monde occidental, ce qui est déjà pas mal, et de travailler sur une séquence qui va en gros du Moyen-Âge au XIXe siècle. Hein. C'est déjà pas mal. Nous ne parlons donc pas de l'Antiquité, c'est en soi un domaine très important, très complexe. Nous ne parlerons pas non plus de la céramique moderne et contemporaine, parce que là, c'est encore un autre domaine. On va donc déjà défricher ce domaine qui est déjà assez important de l'histoire de la céramique en Europe, en gros, en Europe occidentale, on ira, je pense, rarement ailleurs, entre le Moyen-Âge et, en gros, le XIXe siècle. Hein, voilà, en gros, le cadre que je vous propose. Un cadre qui va être d'ailleurs marqué, grosso modo, par la chronologie et la géographie. Les deux se croisent assez bien, d'ailleurs, vous verrez. Mais je pense que c'est l'élément le plus structurant pour peut-être défricher ce territoire qui, si on va dans tous les sens, peut être vraiment très compliqué. Je pense que le plus simple est d'entrer dans une chronologie normale, hein, qui va des périodes les plus anciennes vers les plus récentes, et de lier ça à des questions géographiques, parce que nous verrons que les deux sont relativement liés. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, on avait travaillé sur des questions de technique et des questions de forme, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et que c'est important de savoir ce que c'est qu'une faïence ou une terre cuite glacurée. Je pense que maintenant, on a ces éléments en tête, et on sait ce que c'est qu'une cruche. Par rapport à un plat, on le savait déjà avant. Enfin, maintenant, on a confirmé ses acquis. Alors aujourd'hui, on va rentrer finalement dans le vif du sujet. Je vous ai préparé une série de 25, à peu près, diapos, qui vont nous permettre de voir des céramiques, de se familiariser avec cela. Et je vous en montre une première. Que voilà. Alors, d'abord, de quel type de forme s'agit-il? Ça, c'est pas très compliqué. C'est un plat. Alors, oui, bon, disons que si c'était grand, ce serait une assiette. Petit, une assiette. C'est grand, donc c'est assez grand, ça fait à peu près cette taille-là, le diamètre. Hein. C'est donc un plat. OK. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez imaginer les techniques?
Faïence.
Grand feu. Et quand même polychrome. Il y a quand même deux couleurs. Bien, enfin, deux, trois. Bien. Le sujet, il n'est pas trop compliqué.
Religieux.
Une vierge et l'enfant. Hein, voilà. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Est-ce que vous avez maintenant une idée du secteur géographique où cela a pu être produit, peut-être de la période où ça a pu être réalisé?
Italie.
Oui,
moi, je verrais bien Italie aussi.
Italie.
Bleu et jaune, c'est souvent qu'on voit l'Italie.
Mmh. Et une époque, une idée d'époque peut-être?
16e.
Pardon?
16e.
Oh, peut-être avant.
Peut-être avant?
15e,
oui. 15-16e.
Oui,
15-16e. Ok, bien. Donc, on verra tout à l'heure, hein, en ramassant les copies, si c'est bon ou pas bon. Hein. Mais enfin, le sujet m'a l'air assez bordé, on va voir. Hein. Je vous montre une deuxième diapo. On n'a pas parlé du tout du marli, c'est-à-dire du bord.
Oui, du bord.
Qu'est-ce que vous auriez à dire?
Très chargé.
Très court.
Oui.
Très chargé.
Et puis symétrique.
Oui.
Les arcanes.
Oui. Oui, une sorte de répétition, hein, de deux motifs qu'on pourrait signaler comment?
Floral et géométrique.
Oui, un des types je dirais peut-être végétal. C'est un peu, et ça?
Géométrique.
Oui, on appelle ça comment d'ailleurs ce motif-là?
Des vagues.
Des écailles, comme sur les poissons. Bien. Parfait. Bien. Allez, ça, c'était pas trop compliqué. On va aller vers des choses qui le sont peut-être un peu plus. Bien, là, la forme, toujours pareil. Hein. On va, si je veux dire, si vous me permettez l'expression, on va en bouffer des plats avec des assiettes. Hein, c'est bon, on va voir.
Hein.
Oui, il n'y a rien dedans. Votre remarque, pleine d'esprit, comme d'habitude. Hein. Et d'ailleurs, intéressante, pourquoi? Enfin, toutes vos remarques sont intéressantes, mais celle-là est spécialement. Et pour quelle raison?
Voilà.
Voilà, c'était essentiellement des céramiques décoratives. Elles ne l'étaient pas d'ailleurs exclusivement et toujours. Hein. C'est également des pièces qui parfois, il y en a certaines, qui étaient utilisées. Mais elles ont quand même une raison d'être qui est aussi décorative. Hein. Dans le contexte qui est celui-ci, la céramique est également un élément de démonstration. Hein. Notamment, vous disiez que la céramique précédente datait des 15 ou 16e siècle. Hein. À cette époque, quand on est un personnage un peu important et qu'on a des céramiques, on a également, dans la grande salle qui est la salle de réception, une sorte de buffet où on les expose.
Oui, oui, hein. Donc,
voilà, c'est ça. Hein. Autrement dit, si vous voulez, ces céramiques ont un rôle décoratif. Donc, évidemment, il y avait rarement quelque chose. Enfin, il n'y avait pas toujours quelque chose dedans, en tout cas. Bien. Alors, ce plat, que pourriez-vous vous dire au niveau de la représentation?
Alors, c'est complexe.
C'est complexe.
Le tremblement de terre.
Tremblement de terre.
Oui, le sol s'ouvre.
Oui.
Le cheval tombe dedans.
Voilà. Voilà, le sol s'ouvre et évidemment, il y a un cheval qui tombe dedans. Ouais.
Les colonnes tombent.
Oui, les colonnes tombent aussi. Enfin, c'est... Il y a un problème. Ça vous dit quelque chose
de...
Pardon ?
On voit un port.
On voit un port, oui. Avec la mer. En partant de la mer, effectivement. C'est, à votre avis, je ne sais pas, ça vous rappelle quelque chose ou pas ?
Oui, le tremblement de terre de Lisbonne.
Alors, c'est vrai, ça fait un peu faire penser au tremblement de terre de Lisbonne. Hein. Est-ce que les éléments que vous voyez là font... particulièrement penser à Lisbonne ou pas? Oui, la mer, par exemple.
La mer, oui, le bleu portugais.
Le bleu portugais. Il y a d'autres éléments qui peut-être évoquent... Pardon? Vous disiez, oui, vous disiez.
Ça fait penser aux azulejos.
Oui, vous savez, effectivement, vous savez qu'au Portugal, hein, il y a une grosse tradition de céramique, et en particulier de ce qu'on appelle en accent portugais moyen, des azulejos, qui vient qui est l'équivalent de l'espagnol azulejos, des carreaux de faïence décorés, en fait. Hein. Et effectivement, en Portugal, il y a d'admirables décors de ce genre, hein, absolument extraordinaires. Je pense que vous en avez tous vu, c'est très, vraiment remarquable. Hein. Donc ça peut faire penser effectivement à ça. Hein. Ça veut dire qu'on aurait une pièce portugaise, peut-être ? Les personnages ont l'air antérieurs, c'est-à-dire
antérieurs au tremblement de terre de Lisbonne, qui était au 18e siècle.
Ben oui.
Ah,
oui. Certains en ont parlé dans leurs œuvres, comme vous le savez.
Oui, oui.
Ouais. Et donc vous citeriez ça quand, vous ?
16e, 17e.
L'œuvre ou bien ce qui est représenté ? Parce que c'est deux choses différentes. Quand a été produite cette œuvre, et la scène représentée date, je veux dire, de quelle époque, se situe à quelle période?
Presque antique, parce que...
Presque antique. Qu'est-ce que vous voyez comme élément antique?
Le monsieur sur son cheval, il n'est pas casqué, il a une cape.
Donc, il y a des éléments qui vous paraissent antiques, comme le personnage qui est là, c'est ça? Par contre, il y a des choses qui vous paraissent pas trop antiques. Vous parliez d'une église
là-bas,
oui,
à droite,
oui,
c'est ça.
Oui.
Je suis pas sûr que ça, parce que c'est.
Non, on dirait que voilà, c'est.
Je suis pas sûr. Vous pensez à un clocher?
Oui, oui, oui. Je pensais à un clocher, mais ça ne doit pas être ça.
C'est pas. Je crois pas que ce soit un clocher. Hein. C'est une sorte de mât ou de colonne, enfin. Bon.
À moins que ce soit une reproduction assez récente de l'histoire passée.
Il y a 4 médaillons d'hommes sur l'aile.
Oui, sur le marli, sur l'aile, il y a effectivement 4 médaillons, 4 personnages masculins qui apparaissent.
Et les instruments à musique ?
Oui, des instruments de musique.
À quel endroit ?
Sur le marli.
Des instruments de musique ?
Il y a des cases, il y a une guitare, il y a une trompe.
Oui. Donc votre guitare, elle est là, c'est ça ?
Non.
Oui. Donc il y en a une en bas.
Là aussi ?
Non, pas.
À gauche.
Ah, là.
Ok.
Un violon.
En tout cas, un instrument à cordes. Hein.
Mais il y a des casques.
Ouais.
Ah oui. Il y a des casques, peut-être des épées.
Ben oui. Comment est-ce qu'on pourrait appeler finalement ces décors qu'il y a sur l'aile, sur le marli ?
Des trophées.
Ouais. Des trophées. Alors, des trophées qui mélangent effectivement des tas de choses. On devine quelques instruments à cordes et puis aussi beaucoup d'éléments très militaires. Hein.
Ouais.
Bon. qui d'ailleurs, je crois, hein, s'articule assez bien avec Sierre au centre.
Oui.
Le personnage en face, c'est qui? C'est quoi?
Saint-Georges.
Saint-Georges?
Il n'y a pas de dragon.
Bah, peut-être que le dragon, il est dans le trou.
Il est déjà tombé.
Voilà. Il est déjà tombé, oui.
On dirait qu'il tue le
personnage. C'est un supplice, là. Il est en train de percer avec sa lance.
Oui.
Qu'est-ce qui est un supplice?
Non, à droite, le guerrier, là, il est en train de tuer celui qui a à genoux.
Oui, voilà.
Ici?
Oui,
voilà. Il est à côté, sa lance.
Oui. L'empêche de tomber.
Oui, donc là, vous interprétez ça comme un guerrier qui en tue un autre.
Non, oui.
Voilà. Le cavalier, il a l'épée en l'air. Ouais. Il a frappé.
Ouais.
Il est malin.
Bon, donc c'est, si je résume, hein, on est dans une scène qu'on peut envisager comme étant une scène, j'allais dire, entre guillemets, contemporaine de l'œuvre réalisée, hein, qui fait un peu penser à Lisbonne. En même temps, certains y voient plutôt quelque chose qui attire vers l'Antiquité, du fait peut-être des colonnes ou du vêtement des personnages. On y voit effectivement une fracture ouverte dans le sol. Visiblement, tout cela affecte l'architecture qui s'écroule plus ou moins. On voit des colonnes, des chapiteaux en train de s'effondrer. Et ce personnage avec son cheval a l'air de se diriger vers le trou qui est là. Hein.
Bon. C'est quoi, et les personnages dans les médaillons,
les quatre.
Ah, et il y a des personnages dans les médaillons.
Ah, oui, il y a un petit personnage devant, là, en bas.
Tout en bas.
Ici, ça, je ne crois pas que ce soit un personnage, non, je crois que c'est un petit animal.
C'est un petit animal.
Ah, d'accord.
Ouais. Peut-être un chat. Voilà.
Ah oui. Ce sont des personnages célèbres qui voulaient représenter leur
autour,
histoire. Oui.
À votre avis.
Ils se ressemblent, les trois, mais ils ont la même coiffure.
Ouais, notamment c'est les yeux du haut et celui de droite se ressemblent. Hein.
Ah, oui, oui.
Mais peut-être.
Mais c'est pas l'Antiquité, hein. Là.
Non, ça n'a pas l'air d'être l'Antiquité.
Ah,
c'est peut-être pas une famille. Ils ont le même collier, ceux de droite et
ouais,
gauche.
Ouais, ouais.
Même celui du bas, il y en a un aussi.
Oui, il y en a un aussi.
Ils ont toujours un habit vert au-dessus.
Bon, donc des personnages autour qu'on a un peu de mal à identifier, qui n'ont pas l'air d'être contemporains de la scène qui est au centre, hein, c'est ça que vous disiez, je crois. Une scène au centre un peu compliquée, où on comprend un peu mal ce qui se passe, mais si on voit qu'il y a des choses qui s'écroulent, un cavalier qui a l'air de tomber dans un trou, et des personnages autour qui sont bien agités, on se demande s'ils se cassent la figure les uns les autres ou pas, bref. Une scène dont on a l'impression qu'elle est antique, mais en fait, c'est pas évident.
Ça
bref.
Ça peut pas
pardon.
Être la destruction du temps.
Assez apocalyptique, oui. Mm-hmm. Pardon, vous disiez.
Ça peut pas être la destruction du temps.
La destruction du temple de Jérusalem, vous pensez. Pourquoi pas.
C'est trop près de la mer.
Trop près de la mer.
Oui, c'est trop près de la mer.
Bon, donc on est devant quelque chose d'un peu compliqué. Hein.
Oui,
on essaiera d'y voir un peu plus clair. Hein. Là aussi. Un lieu de fabrication, une date de fabrication, vous diriez quoi? Donc soit Portugal, on resterait sur cette idée, ouais. Donc on va pour le Portugal?
Oui, oui.
Ouais. Et l'époque? Si on prend en termes Lisbonne, on est tard, on est plutôt, disons, 18e. Hein.
Mais c'est les personnages qui sont représentés ne sont pas vêtus du tout comme lors du tremblement de terre. Il a juste un pagne, le cavalier.
Oh ben pas seulement, il a une cuirasse, ce qu'on appelle une cuirasse anatomique.
Oui, parce qu'on voit les manches.
Sont des cuirasses qui étaient généralement en cuir et qui reproduisaient en cuir le buste. Quelquefois ça peut être en bronze d'ailleurs aussi, ça dépend des cas. Hein. Mais très souvent, les empereurs romains sont représentés comme ça, hein. Non pas avec leur musculature, mais la cuirasse anatomique qui les vêtait. La fameuse sculpture représentant Auguste, qui était orange, par exemple, c'est ça. Bien. Bon, voilà en tout cas quelque chose qui nous questionne. Hein.
Ça, c'est Italie. C'est
Italie,
ça.
Donc là, on se rendait à nouveau. Soit un plat, soit une assiette. Enfin, hein, dès que c'est là, on ne va pas épiloguer à chaque fois là-dessus. Vous y voyez donc une œuvre italienne qui représente quoi?
Une jeune femme.
Oui, un buste de jeune femme. Très bien.
Des escarisses de chapeau.
Pardon?
Ça ne peut pas être un portrait?
Un portrait, peut-être.
Ah oui, okay.
Peut-être.
Avec
des...
Oui.
Qui lui sont des...
La façon dont elle est vêtue, ça fait très, très Renaissance. Ça fait ses...
Donc peut-être un vêtement Renaissance. Ça veut dire que la pièce a trait de cette période.
Pas forcément.
Pas forcément.
On peut représenter quelque chose à une période.
Bien sûr. Donc une figure féminine en buste, une jeune femme... peut-être un portrait, une femme qui est habillée à la mode de la Renaissance, ce qui n'est pas forcément la date de l'œuvre. On a sous les yeux. Okay. Vous parliez de l'Italie. Très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire l'Italie ?
Le style.
Le style.
Le style de la personne correspond beaucoup au portrait que l'on voit sur à l'époque de la Renaissance.
D'accord, donc on a là quelque chose. Après tout, ce qu'on a là est une peinture sur céramique. Hein. Oui. Donc, effectivement, faire un rapprochement entre la peinture et la céramique n'est pas indu, hein, puisque c'est la même technique, hein, même si ce n'est pas sur le même support. Ok, donc une œuvre qui est peut-être de la Renaissance, peut-être pas, en tout cas qui présente une femme de la Renaissance, peut-être une sorte de portrait. Ok.
Des personnages de la
Commedia dell'arte. Des personnages de la Commedia dell'arte. Vous les reconnaissez à quoi ?
Au masque. Au
masque. Au masque, oui.
Au masque.
Donc deux personnages de la Commedia dell'arte.
Et celui de la droite, c'est pas le masque de la peste ?
Non. Ah, c'est vrai que ça peut faire penser à ça. Oui. Le masque des médecins de la peste, une espèce de bec.
Non, polichinelle.
Qu'est-ce qui vous a fait penser plus à un comédien ? Qu'à un médecin.
Oui. Eh ben parce qu'il porte déjà l'instrument musique.
Oui.
Il a une lutte déjà.
Voilà, il a un instrument, il a un genre de lutte.
C'est
Il y a des cyprès, donc ça, ça nous fait penser à l'Italie.
La Toscane.
La
Toscane. Et alors, ces deux, là aussi, donc, je crois comprendre que vous allez vers l'Italie, là, décidément. Hein, bon. Et cette pièce, là aussi, vous la dateriez de quand ? Bon, c'est un plat ou une assiette, ok ? Vous la dateriez de quand ?
17e.
C'est difficile parce que c'est un petit peu, comment dire, enfantin, la façon dont c'est représenté, les jambes, ça ne fait pas... Par rapport au portrait de tout à l'heure qui était plus affiné, ça fait plus léger, quoi.
C'est un peu plus naïf, quelque part.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Ok. Donc une œuvre, effectivement, un peu plus naïve, plus enfantine. Bon, le sujet peut-être s'y prête aussi, hein, que ce qu'on a vu précédemment. D'accord ? Donc on serait devant une pièce italienne, plutôt du 17e, alors est-ce que tel ou tel d'entre vous disait, représentant des comédiens de la Commedia dell'arte. Dans un paysage très italianisant, hein, cyprès au fond, et douze collines.
La maison, tout ça.
Ok. Parfait.
Mais là, il y a la date. 1440.
Trop facile, hein.
Trop facile.
C'est un truc
d'électronique.
Alors, donc plat ou assiette, on est d'accord. Qu'est-ce que vous voyez représenté au centre ?
Oui, une créature marine.
Une créature marine, ouais. Pardon ?
C'est la période.
Ça fait assiette de chocolat.
Tablette de chocolat.
Ah, ça fait tablette de chocolat. Le dos du personnage, un personnage musculeux. Hein. Et alors, ce personnage, c'est quoi ?
Il est à cheval sur un... Oui, parce qu'on dirait qu'il tient un renne et c'est un...
On dirait un animal, mais il y a une enfant.
Oui, parce qu'il y a une cruche.
Il y a une cruche qui se déverse.
Il y a une cruche qui se déverse. On a déjà rencontré ça.
Oui, c'est
un fleuve. Voilà, donc c'est sans doute la représentation d'un fleuve. Comment est-ce qu'on appelle ces zones qui se déversent ?
On a su ?
Oui.
Ah bon.
Si, enfin, on l'a su, on devrait le savoir. On en a parlé déjà, oui.
Oui, on en a parlé.
Je n'ai pas imprimé.
Ça s'appelle une urne fluente. Une urne fluente. Évidemment, c'est une urne qui crache de l'eau en permanence. Hein. Et vous avez raison, généralement, les dieux fleuves, les déesses fleuves, sont présentés accoudés ou assis sur une urne fluente. Oui, et qu'est-ce que vous remarquez d'autre concernant ce personnage ? Donc c'est un dieu fleuve.
Il a du végétal sur les cuisses, et puis la hampe qui tient, c'est aussi végétal.
Oui, il a une espèce de hampe végétale.
Il a aussi des végétaux dans les cheveux.
Oui, des choses dans les cheveux.
Et puis on dirait qu'il est assis sur une grosse courgette.
Oui, absolument. Oui. Alors,
ça doit être ça.
Là, c'est assis sur une courgette. Et cette courgette, elle est sur quoi ?
Sur l'eau.
Sur un fleuve. C'est un fleuve ?
C'est la mer.
C'est la mer. Mais vous m'avez dit que c'était un dieu fleuve.
Oui, ben non. C'est
un dieu fleuve ou c'est pas un dieu fleuve ? Parce qu'un fleuve, c'est pas la mer.
C'est la mer.
C'est la mer.
C'est la mer.
Là, c'est la mer.
C'est le delta.
C'est le delta. On est toujours à Lisbonne, n'est-ce pas, dans la mer de paille, le grand delta qui rentre dans les terres. Voilà. Bien. Bon, donc on est devant la présentation d'un dieu fleuve, mais qui est sur la mer, et qui est assis sur une urne fluente. Bon, donc c'est un drôle de dieu fleuve. Il est assis sur un truc qui ressemble à une grosse courgette, je reprends. Il tient une hampe végétale. Il a d'ailleurs les cuisses plus ou moins couvertes de décors végétaux.
Des algues.
Il en a même dans les cheveux.
Ça, c'est pour ce qu'il y a au centre, qui est un peu bizarre, finalement.
Oui.
Parce que,
voilà,
on voit à peu près ce que c'est, mais c'est un fleuve qui n'en est pas un, tout en étant un, sans en être. Quoi. Donc c'est un peu bizarre. Et alors sur le Marly, où il y a la date, hein, là c'est trop facile, 1549, on est au XVIe siècle, pas de problème.
Deux cornes d'abondance.
Des cornes d'abondance, ouais.
Et puis il est très large par rapport au centre.
Oui, un très large Marly. Hein, ouais. Donc il y a des cornes d'abondance, il n'y a que des cornes d'abondance.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il y a un personnage dont les bras se terminent en
volutes.
Ouais.
Et les jambes aussi, en feuilles.
Oui, une espèce de personnage végétalisé, on va dire. Et puis quoi d'autre encore ?
Des
éléments d'armure. Et puis de... C'est quoi ça ?
C'est pas de l'armure, ça ?
Plus que de l'armure... Des boucliers, oui. C'est des boucliers, hein. Plus que des armures, sont des boucliers.
Il y a un R en bas, derrière les cornes d'abondance.
Peut-être. Je ne sais pas si c'est une lettre, ou si ce n'est pas plutôt ce qu'on appelle des lacs, si vous voulez. L-A-C-S, c'est-à-dire des liens. C'est une espèce de ruban qui relie et qui lie quelque chose à... Voilà. Bien. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ce qu'il y a sur le Marly ?
Tout à l'heure, l'autre assiette. Ça ressemble
à l'autre assiette. Hein. Ouais, on a dit que c'était quoi ?
XVIIe, et c'était Portugal, hein, où il y avait des... Il y avait des trophées.
Des trophées. Donc on aurait là quelque chose qui nous rappelle ces trophées. Donc visiblement, on aime bien mettre ce genre de choses sur les marlis, hein. C'est vrai que c'est pratique.
Oui.
C'est pas quoi mettre, mettez ça, ça passe toujours. Ok ? C'est fait où ça ? On sait la date. Hein ? Donc c'est fait au XVIe siècle, mais où ?
Moi j'ai vu plutôt italien.
Plutôt italien ? Ouais.
Donc,
XVIe siècle, plutôt italien.
Ah, c'est chez ça.
Oui.
Ça peut être espagnol ?
Ou espagnol.
Bref, Europe du Sud.
D'accord. Ok. Mais on va rester dans cette proposition généreuse.
Ça change.
Là, ça change. Une coupe plutôt.
Un cavalier.
Oui.
Avec un cavalier.
Un cavalier.
Et en faïence.
En faïence. Oui, on n'a pas parlé, c'est vrai, on l'a dit pour la première, hein. Mais à chaque fois, on est dans des faïences, des grands feux. Il peut y avoir, tu vois, des craquelements. Ouais, il y a effectivement, c'est assez craquelé, par exemple.
C'est pas voulu, ça.
Oui, pas forcément, non. Et puis, c'est aussi ce qui a été éventuellement conservé dedans, ou les conditions de conservation qui font que le craquelement est plus ou moins visible.
Oui, parce qu'on peut en trouver des craquelés, mais c'est fait exprès.
Voilà, oui, absolument.
Ça, c'est grave.
Et le centre est bombé.
Pardon, le centre est bon, un peu bombé.
Bombé, oui. Et en creux le milieu.
Oui.
Il y a un pied
comme un là, en l'occurrence, enfin, il y a un petit pied de pas un demi-centimètre.
Ah,
voilà.
Donc,
ce n'est pas une grande coupe. C'est pour ça que ce genre de choses, certains appellent ça plutôt plat, d'autres coupe, parce que c'est quand même assez creux. Voilà. C'est le fait que ce soit assez creux qui fait qu'on appelle coupe. Là, dans la publication où j'ai tiré ça, il dit que c'est un plat. Mais c'est vrai qu'on peut appeler ça une coupe. Vous savez, après, c'est un peu subjectif. Hein. C'est vrai qu'une coupe aura peut-être un pied plus important. Hein. Là, le pied est bas, mais par contre, c'est creux. Donc, à vrai dire, personne n'en voudra à personne si on appelle ça soit plat, soit coupe. En tout cas, c'est un plat creux ou une coupe sans pied. Voilà. Donc, les deux sont justes.
C'est très peu travaillé par rapport aux autres.
En tout cas, la forme.
Ah, oui.
La forme est évidemment très travaillée. Qu'est-ce qui était important là dans cette pièce par rapport aux autres?
Le bassin plutôt que le. Par rapport au mari.
Parce que c'est très différent des autres. D'ailleurs, quand je l'ai passé, vous avez tous fait oh.
Oui, c'est
donc ça fonctionne.
Le travail de la coupe.
Ouais, le travail de la coupe, sa forme, effectivement, qui est.
C'est peut-être plus
simple. C'est le dessin est simple.
Pour être utilitaire.
Plus utilitaire que les autres.
Que décoratif.
Pourquoi pas.
Je sais pas.
C'est vrai que le dessin, on dirait qu'il est vite fait.
Oui. Le dessin.
Le dessin, c'est un peu croquis, c'est assez rapide.
Oui. Ah oui, c'est assez différent de ce qu'on a vu dans les autres. On a un dessin rapide. Donc, la première idée que vous aviez, c'est que c'était peut-être une œuvre plus usuelle, utilitaire que les autres. C'est une possibilité. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Moins décoratif.
Oui. Ouais.
Difficile à réaliser.
Pardon.
Plus difficile à réaliser qu'une assiette.
Oui, au niveau de la forme en tout cas. Oui, parce que vous avez l'air de faire un peu la fine bouche pour le dessin central. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc une forme un peu élaborée, un dessin un peu rapide. Bon, tout à l'heure on a vu des peintures, là on voit un dessin, c'est quand même moins bien.
Oui, mais avec une idée de la vie.
Une idée de la vie. C'est quelque chose d'un peu presque comme ça.
Oui, oui, oui,
hein?
Oui,
comme disent les Italiens, c'est fa presto. Hein?
Ah, c'est
voilà, c'est, oui, c'est ça. C'est quelque chose d'un peu. C'est rapidement fait. Quoi. Il y a l'élégance du geste là-dedans. Oui. Tout à l'heure, vous voyez des trucs très chiadés, tout qui était, il y avait pas un brin d'herbe qui manquait. Là, c'est fait.
Plus spontané.
Plus spontané.
La forme même donc, de la forme même est proche d'éléments naturels.
Par exemple, ça vous fait penser à quoi, par exemple?
Bah, des fleurs, des
oui, ouais. Oui, ça peut effectivement faire penser. D'ailleurs, quelquefois, certaines de ces coupes, appelons ça comme ça, hein, ont même des décors qui peuvent faire penser à des fruits, vous voyez, comme si c'était une coupe avec des fruits, quoi. Voilà.
Oui. Voilà.
Donc, effectivement, il y a une dimension un peu végétale de la forme même. Donc, on a quelque chose, finalement, ma comparaison, hein, que je vous ai, du fait de ce que vous aviez dit, hein, entre les peintures, entre guillemets, qu'on a vu tout à l'heure, les dessins qu'on aurait là, elle est assez juste, hein.
Oui.
C'est-à-dire que, mais c'est vous qui l'avez dit, hein, j'ai fait que la retraduire, hein. Moi, je ne fais rien d'autre qu'en rétablir ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui est finalement un dessin un peu rapidement fait comme ça, qui est assez dynamique, qui évoque la vie, hein. Le cavalier, il est là, voilà, hein. Une œuvre peut-être plus usuelle, donc qui finalement ne montre pas la même chose que les autres. Hein.
Oui.
On a la volonté plutôt de montrer un dessin rapidement fait, troussé, si vous voulez, hein. Plutôt que pour une œuvre élaborée avec des tas de personnages, des trois vies sur le bord. Et là, le but, c'est peut-être plus la forme aussi qu'autre chose. D'accord ?
Mais c'est une pièce moulée ou pas ?
C'est une pièce moulée. Ouais. Là, c'est moulé. Ouais. T'es obligé parce que.
Oui, parce que les formes
intérieures. Voilà. Ouais, ouais. Ah
oui, là, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on peut, mais.
Donc, c'est quoi ? Oui, non, mais c'était quoi, 19e?
Ah, il n'a pas demandé.
Alors, un pot. Un pot couvert. Et on appelle ça un pot couvert parce que c'est un pot, il y a un couvert, donc il est couvert, et c'est même un pot couvert à deux anses, parce qu'il y a deux anses. Ça, je crois que c'est pas trop compliqué. Bien.
C'est un pot à pharmacie, non ?
Vraisemblablement, effectivement, ça fait beaucoup penser à un pot à pharmacie. D'ailleurs, ce pot appartient à une série un peu équivalente qui semble bien montrer que c'est un pot à pharmacie. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, qu'est-ce qui vous peut vous faire dire encore que c'est un pot à pharmacie ?
Il y a écrit Péonis, c'est-à-dire l'épivoine.
Ben, il y a des chances, effectivement. Donc, ces pots à pharmacie étaient faits pour chacun, effectivement, être remplis d'un matériau différent. Donc, voilà. Très bien. Alors, même chose. Hein. D'abord, qu'est-ce que vous voyez au niveau de la représentation de ce qui
encore
est montré ?
Encore un personnage, une dame.
Encore un personnage, une dame.
Sur un dauphin. Ouais.
Sur un dauphin.
Oui, mais qui a une queue végétalisée aussi.
Oui, une queue qui a l'air un peu végétalisée. Oui, alors il y a effectivement une vague qui lui parle. Ben, un dauphin, c'est dans l'eau, donc une fois l'eau passe par-dessus l'eau. Enfin, bon.
Elle tient un voile.
Oui, elle tient une espèce de voile qui sert de quoi ?
De voile.
Qui sert de voile. D'ailleurs, qui est gonflé par le vent, un peu comme si c'était un bateau, qu'elle était le mât. Qu'est-ce qu'elle peut symboliser, cette figure-là ?
Qu'est-ce qu'elle peut symboliser ?
La mer.
C'est peut-être une
un peu comme l'autre. Hein. Comme le bonhomme tout à l'heure sur sa courgette.
Oui, c'est ça.
Je reprends votre vocabulaire. Hein. Ah, Venise. De l'eau, hein. Oui, les couleurs, hein, oui, c'est vif. Hein. On comprend que ça fait cher. Hein. Donc, si vous parlez de Venise, c'est qu'on est en Italie. Genre, non.
Si ça n'a pas changé de place, oui.
Ça n'a pas changé de place, oui. Donc, vous y voyez une pièce italienne ? Non.
Non, à cause des dauphins.
Non, c'est les...
À cause des dauphins, non.
Il y a trop de couleurs.
Trop de couleurs.
Il y a le
c'est toujours les ocres, les verts et les bleus. Hein.
C'est vrai qu'on a une palette de couleurs assez normée, vous l'avez vu. Hein. Oui. Le bleu, le vert, le jaune, l'ocre foncé, enfin, oui, oui. Tiens, qu'est-ce que vous voyez autour du médaillon ?
Autour du médaillon.
Vous voyez le médaillon avec cette figure féminine qu'on a du mal à interpréter, hein. Qu'est-ce que vous voyez tout autour, là ?
Il y a des dates en bas, il y a une mélodie de musique à droite.
Ouais, non. Peut-être. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Mais là, par exemple, vous voyez quoi ?
Non, on voit
pas. Oh, si. Si.
C'est pas un trait de musique ? Non, je sais pas, on voit du blanc, mais on voit pas bien ce que c'est.
Ouais.
Alors, il y a des choses écrites. Là, il y a la date.
Ouais. 72,
oui, 1579. Donc on est encore au 16e siècle. Décidément, je vous mâche le travail.
Et puis en haut, il y a des lettres QR.
Oui, il y a R.
Sous la
lance. PQR. Ça vous dit quoi ? Oui, ça veut dire quoi, SPQR ? Exactement. Senatus populis quae romanus. Ça veut dire quoi ? Oui, le Sénat et le peuple romain. C'est donc effectivement une sorte d'emblème de la République romaine qui est souvent tenu d'ailleurs dans certains défilés. Hein. Quelque chose qui garantissait en quelque sorte la nation romaine. Voilà. Donc, cet emblème qui est sur une sorte de cartilio, de cartel, de pancarte, si vous voulez, est accompagné donc de ces choses que vraiment vous ne voyez pas ce que c'est. Pourtant, on en a vu d'autres.
Hein. C'est marrant parce que je vois rien.
Des boucliers. C'est du bouclier. débrouiller tout en longueur, comme on en a vu tout à l'heure. Autrement dit, c'est quoi autour des médaillons?
Des trophées.
Des trophées. Ça vous rappelle des choses.
Oui. Hein,
trophées, trophées, trophées. Il y a un petit thème de répétition dans tout ça. Hein. Hein. Mais la céramique est aussi un art, j'allais presque dire, un peu industriel. Hein. C'est de l'artisanat, bien sûr. Hein. Mais de l'artisanat un peu en série, parfois. Hein. Donc, si vous voulez, quand on peint 50 beaux couverts par jour, on ne va pas à chaque fois faire œuvre originale. Hein. On fait des trophées, des trophées, des trophées, au moins, ça va, quoi.
Sur le couvercle, il n'y a pas un tambour, une lyre
Sans doute, un trophée de choses musicales. Il y a un tambour, effectivement, peut-être même deux, peut-être une lyre. Tout à l'heure, on a vu des instruments de musique, vous vous rappelez ? Bien. Bon, en tout cas, on reste un peu quoi avec la figure au milieu.
Ouais,
hein. Ouais.
Une naïade.
Une naïade. Allons-y pour une naïade.
C'est monochrome.
Monochrome.
Une assiette.
Une assiette. Parce que là, effectivement, c'est pas très grand. Hein.
C'est
un petit air chinois.
Un petit air chinois.
Oh non.
Encore Italie.
Bah, oui.
Bah, attendez, avant vous me disiez qu'Italie, non, pas sûr. Alors tout d'un coup, on est en Italie là.
Bah, ça, c'est pas chinois.
Donc c'est pas encore Italie, c'est.
Bah si, c'est SPQR.
Ah si, SPQR, donc c'est Italie quand même. Oh bah, quelquefois sur des tableaux de Nicolas Poussin, on voit SPQR.
Oui, mais parce qu'il copiait.
Ah oui,
ok.
Ok. Très bien. Oh, on s'arrange avec la réalité. Hein.
Oui, c'est un décor unique parce que
oui.
Le décor se continue sur
oui.
Les mariés.
Oui.
Sur le marié.
Oui. Oui, oui, oui. Là, on n'a pas des trophées comme d'habitude avec au centre dans le bassin. Ouais. Un décor unique qui envahit toute la pièce, absolument.
Ouais.
Ça représente quoi d'ailleurs?
Une espèce d'angelot qui est dans le vide.
Oui, une espèce d'angelot. Il est dans le vide.
Dans l'eau, comment il
est
sur l'eau.
Il est encore dans l'eau, lui.
Il y a de l'eau, là.
Il est sur l'eau. Non, c'est
de
la terre.
Oui.
Il y a les pieds sur le ciel.
Je ne suis pas sûr. Oh, il y a peut-être ben un bout de ruisseau par là. Hein. Bon. Enfin, oui, rien. Alors, effectivement, il est.
Un geste bizarre.
Voilà, il fait un geste bizarre. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'eau.
Non, il est en équilibre.
Ouais, il est un peu en équilibre, voilà, il fait un geste bizarre, je suis assez
d'accord. Il danse.
Il danse, oui, il danse. Enfin, une danse un peu... Voilà, un peu lourde. Il n'est pas d'une prestance extraordinaire. Hein. C'est effectivement un geste étrange, je ne sais pas bien ce qu'il fait pas. Avec la main, il fait un drôle de geste aussi. C'est pas forcément un ange. Hein.
Il
n'a pas d'aile.
Il a un chapeau avec une...
Oui,
je ne suis pas sûr. Non, je crois que ça, c'est ça, une veste de cheveux.
Il n'y a pas la même teinte que l'autre.
Pardon ?
C'est la
deux teintes, c'est l'ombre.
Oui, c'est une
teinte
dure. Une petite mèche avec un rangé color, on fait des choses très bien.
Mais ce n'est pas des vagues en haut ?
Pardon ? Qu'est-ce qu'on voyait en haut ?
Des vagues, non ?
Ben, vous croyez ?
Les collines.
C'est plutôt des collines. Mais effectivement, moi, je trouve ça un peu bizarre, non ?
Oui, oui.
Parce que la perspective, elle est curieuse, quoi.
Oui.
Hein. Ce que vous voyez en bas, il y a des maisons, quoi. Hein.
Oui, mais en haut.
Et puis, là-haut, il y a des collines, mais on comprend mal. Hein. C'est un peu bizarre, hein ?
Oui.
Bon.
Bon, c'est comme ça.
C'est comme ça. C'est fait où ? C'est fait quand ?
Ça pourrait être dans les pays nordiques, enfin, Hollande.
Donc plutôt du nord.
Oui.
Ce qui est d'ailleurs expliqué avec le côté chinois dont vous parliez. Hein.
Oui, oui.
Ah, il y a beaucoup de liens entre l'Extrême-Orient et. Ok. Non, c'est peut-être pas chinois, mais c'est peut-être sinisant.
Oui, j'ai pas dit chinois.
Non, un petit côté chinois.
À cause du bleu.
Oui, avec ce bleu qui fait penser au bleu de Chine. Et alors, c'est fait quand ?
Si on prend le sinisant, ça serait plutôt 19e.
19e ?
Puisque c'était la mode de l'Orient. Mais bon.
La mode a commencé avant.
Non.
Mmh. 17, non oui, bah, je vous en montre des drôles de choses. Hein.
Oui. Ah, oui.
Ah bah vous se
Donc, on serait devant une scène envahissante, monochrome, sur un plat ou une assiette en faïence, hein, nous sommes d'accord. Qui représente un personnage dont on ne comprend pas trop l'attitude, il a une drôle d'attitude, est-ce qu'il danse, on ne sait pas trop bien, dans un paysage un peu bizarre, parce que la perspective horizontalement vers le dessus, avec ses montagnes sur le dessus. C'est assez bizarre.
Et la partie inférieure est décorative.
Très décorative, avec une espèce de fruits, de fleurs, d'herbes. Bon. Oui. On pense qu'on est peut-être assez tard, voire même au 19e. Oh. Non. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Bon. J'ai dit peut-être assez tard. Hein. Voilà. Devant une pièce un peu orientalisante, un peu inspirée de la Chine, peut-être, toute bleue. Voilà. Et peut-être réalisée dans les pays plutôt du Nord, Hollande, par exemple. Ça vous va, ça, comme résumé de ce que vous avez dit ?
On dirait qu'il soutient la voûte, comme il est, comme ça, avec l'épaule. On dirait qu'il soutient ce qui est au-dessus de lui.
Ah, il soutiendrait le cercle du bassin.
Oui.
Oui. Disons que son dos épouse un peu la forme du bassin, je dirais peut-être. Hein? Bon, en tout cas, voilà qui nous laisse un peu perplexe. Enfin, j'ai l'impression. Eh bien, on va voir si la scène suivante... Il y a du monde. Il y a du travail. Faïence à décor de grand feu polychrome. OK. Sur un plat. Bon, ça c'est réglé. Maintenant il y a le reste.
C'est grand feu, ça ?
C'est grand feu. Ça c'est grand feu.
C'est
grand feu. C'est virtuose, mais c'est grand feu. Vous voyez, vous n'avez pas des tas de mauves violacés, des rosas, etc. Il y a malgré tout une palette qui est toujours un peu, c'est bleu, c'est rouge. Alors c'est très détaillé, très dessiné, mais c'est du grand feu. Alors au centre,
un personnage,
un roi.
Ouais. Un roi, un personnage couronné en tout cas.
Avec des animaux.
Avec des animaux. Un singe, un lapin. Il y en a peut-être d'autres. Enfin, il y a ces deux-là. Et puis.
Il y a deux espèces de lune.
Oui. Deux espèces de lune. Ah ouais.
Un truc à
soleil, la lune et le soleil.
Il y a peut-être le soleil et la lune. Hein. Le soleil et la lune. Voilà, il y a rendez-vous avec la lune.
Il y a de l'eau.
Et puis il y a la terre. La terre et l'eau. Le soleil et la lune.
Et il y a deux marlis.
Et il y a deux.
Deux marlis.
De quoi ?
Deux marlis.
Ah, deux marlis. C'est-à-dire que ça, c'est le bassin. Hein, avec une sorte de première frise et le marli et le support d'une deuxième frise.
Et là, sont des décors de grotesques.
Ce sont des décors de grotesques. Pourquoi est-ce qu'on appelle les décors de grotesques ou des décors de grotesques ?
Des grottes, des décors de grottes.
Pardon ?
Un décor de grotte.
Oui.
Sous Néron en particulier.
Oui, oui. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on appelait ces décors de grottes, effectivement, qui ont une référence à Néron, vous avez raison, grotesques. Parce que c'est dans les grottes. Donc c'était des décors qu'il y avait dans les grottes à l'époque de Néron, ça voulait dire.
D'accord.
D'accord. Okay.
Je pensais que c'était des
personnes. Et puis recopier après.
Pardon ?
Recopier.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'en inspirait et on a mis ça notamment sur des céramiques.
Il y a aussi les signes du zodiaque.
C'est bien possible.
Dans les médaillons.
Dans les médaillons.
Dans les médaillons.
Dans les petits cercles.
Non. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a des petits médaillons hein, avec des figures.
Il y en a 8.
Voilà. Il y a des médaillons avec des figures. Et puis, effectivement, c'est grotesque tout autour, hein, sur deux niveaux. Bien. Au centre, rien d'autre ? Non ? Alors, vous datez ça de quand ? Vous mettez ça où ? Quoi ? 18. Et on a fait ça où ? Allemagne 18e, ça vous va ça ? Pas mal. C'est bien. Allez, partons pour l'Allemagne au 18e, avec une représentation d'un roi qui se balade au milieu d'animaux entre la lune et le soleil. Ok. Et autour un décor en deux.
Il a quelque chose dans sa main.
Celle-là ou celle-là ?
Dans la main droite.
Oui, celle-là.
Oui.
Hein. Il n'a pas un truc
Non, il a la main comme ça.
C'est tout
ouais,
Il tient son... l'impression qu'il a un truc.
Non. Et donc, on aurait une pièce là, allemande, du 18e siècle. OK. Super. Un plat ovale, parfait.
La mer.
Que d'eau, décidément, vous en voyez plus. Hein. Pardon ?
Il y a de la Vénus dans l'air.
Il y a de la Vénus dans l'air. Et même dans l'eau. Il y a de la Vénus dans l'eau.
Il y a
des angelots.
Au fond, il y a deux personnes.
C'est des angelots, angelots. Oui, c'est des songes.
Ils s'amusent avec des animaux marins.
Ils s'amusent avec des animaux marins.
Et dans le fond, il y a des, voilà, des décors de château.
Il y a des décors de château.
Il y en a un qui est attaqué, d'ailleurs, un château attaqué.
Il y a à nouveau la
Il y a un château attaqué.
Bah, je ne sais pas, c'est blanc, on dirait qu'il y a de la fumée qui sort.
Ah là, oui. Je crois que c'est le reflet. Ah, c'est voilà, oui, parce que c'est quand même de la faïence.
Il y a à nouveau une cruche qui déverse de l'eau en bas, sous les pieds de Vénus.
Bah, on a l'impression d'un truc.
Une coquille.
Ouais, plutôt d'une coquille, je pense. Tu sais, ces coquilles, genre coquille Saint-Jacques, avec deux côtés, là.
Ah oui. Mmh.
Voilà. Et effectivement, il y a, alors, il y a ça, je ne comprends pas très bien, mais je crois que c'est plutôt une coquille avec deux... Oui. Vous savez, les coquilles Saint-Jacques, il y a des espèces de côtes comme ça, hein, donc un peu comme ça. Bon, le gars qui a fait ça, il n'a peut-être pas souvent vu les coquilles Saint-Jacques. Hein, bon. Et puis, vous savez, sur le côté, les coquilles Saint-Jacques, ça fait comme ça, puis sur le côté, il y a deux... Voilà. Bon. Je crois que c'est ça, plus ou moins bien réalisé. Hein. Enfin, vous savez, les coquilles Saint-Jacques de chez Picard, au XVIIe siècle, c'est pas très fréquent. Hein. Donc on ne voit pas toujours de coquilles Saint-Jacques.
Il y a une espèce de demi-roue, là.
Oui, ouais, demi-roue, cranté. Alors là, je sais, là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est.
C'est un soleil, un personnage qui sort de l'eau.
Oui, un drôle de soleil.
Il ressemble à celui qui
avait tout à l'heure, il avait des algues.
Oui, effectivement, là vous avez un personnage qui sort de l'eau.
Un filet.
Oui, qui fait beaucoup penser à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Oui,
il pêche,
c'est un filet.
Oui.
C'est des algues.
Un pêcheur alors. Oui, puis se prendre les algues quoi. Alors c'est pour ça qu'il en a sur la tête, il en a au pied parce qu'il y a plein d'algues et que voilà. Ok. Donc, une Vénus au milieu de l'eau qui est présentée peut-être sortant ou sur une coquille, un peu mal représentée, tout autour des angelots sur des dauphins, et puis à droite une figure aquatique qui sort de l'eau, lui qui serait peut-être plutôt un pêcheur emberlificoté dans des algues. À l'arrière, des paysages avec des constructions. Entre parenthèses, vous voyez aussi que le mari est couvert par le décor.
Oui, c'est la farine qui est décorée.
Alors, on est où ? On est quand ?
Alors, ça.
Bon, là, il n'y a pas de date. Je n'ai pas pu non plus vous mettre que des pièces datées. Parce que c'est bien gentil. Je veux bien être mignon, mais enfin, je suis un certain.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Et le lieu, c'est pareil, non.
Ça fait un peu
château,
château,
oui.
Plutôt
nord. Plutôt nord. Donc on est plutôt au nord. Pas en Italie, vous disiez ?
Non.
Pardon ? Italie ou nord ? L'Allemagne ? Allemagne, comme tout à l'heure. Allez, allons-y pour l'Allemagne. Oh, ben il y a des montagnes en Allemagne.
Oui.
Hein. Alors voilà l'Allemagne.
Hein.
Ah,
un plat à la
Palissy. Palissy, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quand ?
Bernard Palissy,
ouais.
C'est un ancien. Enfin, il avait jeté ses œuvres au feu et la façon dont elles sont cuites, c'est devenu des céramiques. En fait.
Mm-hmm. Oui, il y a effectivement une histoire qui raconte que Bernard Palissy, un jour. Qui était céramiste, hein, qui était potier, met ses œuvres au feu, puis en fait, les éléments ayant cuit d'une manière un peu particulière, il invente sans le vouloir une nouvelle technique céramique. C'est quoi d'ailleurs ça ?
C'est quoi ?
Faïence, un décor de grand feu, polychrome.
C'est
faïence.
Non. Terre.
Terre.
Et puis modeler.
Terre modelée. Donc c'est plutôt de la terre cuite.
Oui.
Hein, si j'entends bien.
Vernissé, décoré.
Voilà. Vernissé, glaçuré. Hein. Donc on n'aurait pas là tout à fait la même technique.
Non. Non.
Parce que la faïence, c'est de la terre aussi, mais on a vu que c'était différent au niveau. Puisque c'est. Une terre qui est d'abord cuite, qui est couverte d'un premier émail, puis décorée, puis recuite, etc. Vous vous rappelez ? Là, donc, on aurait une technique autre, hein, donc de la terre cuite glaçurée. D'accord ? Bien.
La femme, elle est sur un trône. Elle est sur un, oui, elle tient
une femme sur un trône.
Elle a deux enfants de chaque côté.
Alors, qui s'appelle ?
Des urnes de
fluente. Voilà, des urnes de fluente. Pardon ?
On dirait les
égorges du trône. C'est des urnes. Il y a quelques décors végétaux.
Oui.
Avec celui du haut, avec ce qui s'appelle
des massettes.
Des massettes, oui.
Décors, des massettes, ça s'appelle ?
Oui, les roseaux.
Oui, c'est l'eau.
Ça fait des
plumes à quoi ?
Quand ça éclate.
C'est ça. Ben, j'en ai depuis peu à Germaine, dans la pièce d'eau. Oui. Des roseaux comme ça.
Et en bas, à droite, une autre plante,
un iris d'eau.
En tout cas, les plantes aquatiques. Donc ça s'appelle, j'en profite, ça s'appelle donc des massettes.
Massettes.
Oui, parce que ça fait une espèce de petite masse au bout, c'est peut-être pour ça.
Oui, mais attention quand ça s'ouvre.
Plaf !
C'est des roseaux, non ?
C'est des roseaux. Nous, dans ma famille, on appelle ça les roseaux du Christ. Parce que vous savez, quelquefois, le Christ, au moment de sa dérision, où il fait tenir un roseau comme un sceptre, vous savez, au moment de la passion. On lui met un roseau dans les doigts, et puis, pour se ficher de lui, parce qu'il est comme un roi avec un sceptre, qui n'a qu'un roseau. Bien. Donc, une figure aquatique avec deux urnes fluentes. Vous devinez ce qu'il y a là sur la gauche, peut-être ?
Une grenouille ?
Un animal.
Ouais. C'est un peu plus qu'une grenouille.
C'est un dauphin.
C'est un dauphin. Absolument, c'est un dauphin. Et bien, qu'est-ce que vous voyez là autour ? De l'eau. Alors, c'est une mer un peu moins maritime, parce que là-bas, au fond, on devine quand même un bâtiment sur un. Voilà, donc c'est pas l'espèce de mer immense qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui hésite entre l'embouchure d'un fleuve et le fleuve lui-même. Enfin, vous voyez. On voit quand même un peu la terre. Hein. Et donc, vous nous avez parlé de Bernard Palissy.
Oui, mais je ne sais pas si c'est un plat. C'est plus des poissons, des choses comme ça.
Ah, ok.
Mais il essayait d'obtenir quelque chose qui existait déjà.
Oui.
En Italie.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bernard Palissy, ça peut être un travail antérieur à celui de Palissy.
Qu'il réutilise en quelque sorte.
C'est pas qu'il le réutilise. Vous pensez parce que c'est un plat de Palissy.
Ah ben ça je sais pas. Enfin je le sais mais je vous le dis pas.
À
la Palissy.
Mais il y avait des gens qui travaillaient déjà de cette façon-là.
Ah, c'est-à-dire qu'il reprend en fait une technique et des motifs antérieurs. C'est peut-être ça que vous voulez dire.
Oui, voilà.
D'accord. Ok, ben bah, écoutez, on va voir.
Mais comment
Oui, oui, c'est modelé. Hein. Enfin, c'est modelé, c'est moulé, pardon.
Ah,
c'est moulé.
Voilà, oui.
C'est moulé. Hein. Non, c'est moulé. Hein, il y a une forme moulée. Là il faut mouler. Hein. Bien.
L'urne de droite, elle déverse des poissons.
Ah, c'est possible, il y a peut-être des petits poissons qui tombent.
C'est noir.
Ici. Oui, c'est possible, c'est possible. Je ne suis pas certain, mais c'est possible. C'est possible. Il y a une petite grenouille, là. Il y a un petit moule, là-haut. Bien, en tout cas, nous sommes ici devant une pièce pour laquelle on a prononcé le nom de Bernard Palissy ou de sa suite, ou de... Voilà, hein. En tout cas, une ambiance palissienne. Ce qui veut dire qu'on sera à quelle période ? C'est quand Bernard Palissy ?
Renaissance.
15e, 16e. Plutôt 15e, plutôt 16e. 16e. avec au centre une figure assise avec des zones fluorantes qui règne sur un univers aquatique où on voit aussi bien une grenouille qu'un dauphin, mais il y a de la terre à droite et à gauche, et puis il y a des roseaux, dont des massettes. Voilà. Ça vous va, ça? Oui, c'est et c'est de la terre cuite glacurée.
Oui, c'est la déesse de la rivière.
La déesse de la rivière. Alors, ça représente quoi? Alors, là, quoi comme technique, puisqu'on vient d'être... Faïence. De
grand feu.
À des corps. Bah là, c'est monochrome, parce que le blanc, bah, c'est la première couleur, si vous voulez. Hein. Celle sur laquelle on a fait un décor qui, lui, est monochrome. Un dragon, oui.
Un griffon.
Un griffon. Un griffon, c'est à moitié aigle, à moitié lion. Hein. C'est plutôt un lion. C'est plutôt un lion. Alors, un lion... voilà.
C'est pour faire joli.
Qu'est-ce qui est pour faire joli?
Non. Les rayures. Les rayures du zèbre.
Ah oui, oh oui, oui, oui.
Non, il a mis sa marinière.
Voilà, il a mis son pyjama. C'est un lion prisonnier. C'est un lion burénien.
C'est une patiente qui a été beaucoup utilisée parce qu'on voit qu'elle est, elle a été cassée.
Oui, elle est bien recollée. Hein,
elle a un peu recollée. Hein. Ce lion, il a quelle latitude?
En héraldique, ça serait un lion hissant.
Hissant?
En héraldique.
C'est-à-dire qu'il est comment?
Debout.
Debout. Un lion debout. Ok. Donc vous avez parlé d'héraldique, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui sort de l'art de l'héraldique, c'est-à-dire de l'art des blasons, grosso modo. Alors c'est fait quand? C'est fait où? Espagne. Et quand?
15e.
15e? Ok. Allons-y pour l'Espagne au 15e siècle.
Il y a des végétaux rappelant le lierre.
Oui. Oui.
Moi, je ne vois pas tellement Espagne.
Vous ne voyez pas Espagne. Plutôt où?
Pourquoi pas la France? Ou l'Angleterre?
Ah, l'Angleterre, un peu d'Angleterre. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'Angleterre. Là, ça. Et le lion, voilà, le lion qui rappelle le léopard anglais. Tout, hein. Voyons large. Hein.
Un pot.
Pas couvert. Qui représente
un buste
de quoi, de qui? De soldat. Un soldat de quel genre, pourrait-on dire?
Légionnaire.
Oui, c'est-à-dire il est
romain.
Oui, il est romain. Hein, il est plus ou moins romain. Okay. Ouais. Toujours un peu les mêmes jaunes, les mêmes. C'est donc on est où là?
En Italie.
En Italie. Et on est quand? Ah. 16. Allez, allons-y pour le 16e siècle.
C'est tout le 16e.
Ça ressemble un peu à la mise en scène de la première.
Ça ressemble un peu à la mise en scène de la première. Qu'est-ce notamment qui fait penser à la première ou au premier plat?
Le mari.
Ouais. Et notamment, il y a un décor
à écailles.
Et puis des décors végétaux un peu équivalents, fait beaucoup penser à la première. Hein. Et alors au centre, plus médiéval peut-être. Au centre, vous voyez quoi donc? Un portrait de femme, figure de femme,
de
profil. Ce qui évoque quoi?
Je fais penser une médaille.
Une médaille.
Ouais.
Un profil de médaille. Et une idée de ce personnage?
Une reine.
Pardon? Une reine?
Non, elle n'a pas de.
Oh, il y a une couronne de végétation, bucolique.
Ça peut être une déesse fleur.
Ah, une déesse fleur. On a moyen de savoir de qui il s'agit ou pas? Derrière, quelque chose écrit sur quoi?
Sur un phylactère.
Un phylactère, oui. C'est quoi un phylactère?
Une bande.
Moi, j'avais compris que les phylactères, c'est plutôt ce que tenaient les anges dans les crèches, etc. Ah non. Ah, on voit pas l'ange. Donc il y a un ange qui est hors champ.
C'est une banderole.
Il est peut-être derrière.
C'est une banderole. Ok, une banderole.
Et on peut lire ce qu'il y a.
On peut lire quoi?
C H A N D D A.
Parce que dans le D il y a quelque chose. C'est une assiette publicitaire. D'ailleurs, elle a le teint laiteux.
C'est la laitière.
Candia.
Ça représente la jeunesse.
Donc, une espèce de jeunesse. Une figure de grandeur de jeunesse.
La grandeur.
Donc là, c'est finalement un qualificatif qui évoque la figure. Très bien. C'est fait quand? C'est fait où?
En Italie.
Italie. Et c'est fait quand? Toujours le 16e? 15. Ok, 15e.
Là, il y a des races.
Ça, c'est anglais.
Là, il y a des radiques.
Ah oui. On sent que c'est un blason. Ça, c'est complètement héraldique. Hein.
Ah oui, un blason
avec un lion. Un blason avec un lion, le même lion tout à l'heure.
Un château.
Un château, effectivement.
Un étendard.
Et un étendard.
C'est très anglais. Et après, des motifs très géométriques.
Des motifs très géométriques.
Et répétitifs.
Ouais.
Monochrome. Mais avec une couleur.
Ouais. C'est quoi la couleur?
Marronasse.
Pardon?
C'est brun.
Terre verte. Ouais.
Espagne,
vous disiez? Espagne?
Un noir délapé.
Donc on aurait une pièce d'Espagne.
Non, puisque le.
Non, pas d'Espagne.
La taille d'une assiette?
Oui, c'est un plat. Oui, c'est un plat, ça fait ça, quoi. Oui,
d'accord. Ça peut être allemand aussi.
Il y a un décor indéterminé qui fait penser à une idée arabe.
Ah, quelque chose d'un peu arabisant. Ces choses-là, par exemple.
C'est indéterminé comme décor.
Oui, un décor indéterminé, mais arabisant.
Oui. Oh. L'Espagne a subi
Donc ce serait pas illogique votre histoire.
Espagne
peut-être.
Mais ça ressemble à l'artelé
Alors on serait à quelle date? Bon, alors là. Bon, on enchaîne vite avec le suivant.
Au suivant.
Ça, c'est romantique.
Ah, plus tardi. Donc, ça vous date de quand?
Romantique.
J'ai une petite assiette.
19e.
Assiette de fromage.
Oui, assiette de fromage.
C'est un gâteau.
Ok.
Un seul décor,
effectivement. Il est sur le marli.
Un paysage
avec des personnages.
Les ruines.
Donc, quelque chose du 19e.
Oui,
c'est fait quand ça?
C'est doux.
Chose un peu baroque, oui. Alors, où est-ce qu'on a fait ça?
En France.
On n'a pas utilisé la France.
France 19e, allez hop. Allons-y, vendu.
Macabre.
D'accord.
L'or,
quatrième.
Maccabée, ça vous dit quelque chose?
Oui, ouais, c'est une partie de
la Bible.
Ouais. Ouais. J'ai Maccabée.
Ah, oui, ouais. L'Ancien Testament. Oui.
Donc une figure de l'Ancien Testament.
Un roi, il a une cour.
Ah oui,
il a
ouais. Ah oui, c'est un prince.
Un roi sur un cheval. Oui, il a une cour.
Il est sur un cheval.
C'est caparaçonné.
Tout caparaçonné.
Un
marli.
Ouais, avec des décors répétitifs.
Ouais.
Carré.
Floraux.
Bon. On est où? On est quand?
Un décor floral aussi sur les côtés.
La queue du cheval, elle déborde sur le marli.
Le cavalier, le
réal. Ouais.
Les pieds aussi, la patte.
Ouais. Mais ça ne nous dit pas quand on est et où on est.
Ah non,
mais je ne perds pas de vue mes objectifs.
Tu vas l'énerver, hein, je le
sens. C'est Alexandre.
Alexandre,
non, mais il y a Maccabée.
Bon, vous ne voulez pas décidément pas dire quand on a fait ça ou on a fait ça. Alors vous voudrez peut-être le dire pour la pièce suivante.
Là, il y a
et voilà, oui, un petit angelot, un petit poutreau, on va dire. Hein.
Qui a les pieds dans l'eau. Là, hein. Qui a les pieds dans l'eau.
Qui a les pieds dans l'eau, décidément de l'eau. On en a
souffert. Oui, il y a beaucoup d'eau.
Il y a beaucoup d'eau. Que d'eau, que d'eau. Hein.
Un grand marli
couvert d'un décor végétal, très symétrique. Très bien. Il tient une petite flèche.
Un amour.
Peut-être un amour. Peut-être un amour. Voilà. Et on est où et on est quand? On ne sait pas. Je me dépêche. Une cruche, un pichet, une gourde. Alors, c'est plutôt une gourde, c'est plutôt un pichet, c'est plutôt une cruche.
Un pichet.
Une théière.
Une petite terre, c'est un petit thé, c'est sympa. Décor végétal, faïence de grand feu, la décopolychrome.
Voilà. On est d'accord.
On est d'accord.
Mais l'anneau doit servir à quelque chose.
À tenir.
Ah ben c'est le porteur d'eau. On l'accrocher.
On l'accrocher.
Avec son petit doigt et on boit
l'anneau. Porteur d'eau, non?
Il nous a dit comment ça s'appelait la semaine dernière. Un abarello, c'est ça?
Ah non, l'abarello n'a pas de danse.
Non, il n'y a pas de danse.
Ah. Non, c'est pas
d'abarello. T'as tes notes.
Oh ben non, je ne triche pas.
Un cheval? C'est pas pour les
femmes. Ah, peut-être.
Ça me paraît mieux.
C'est une chevrette. Oui, chevrette.
Et ça, ça vous dit quoi? On a presque fini, mais après on va débriefer un peu. Je crois qu'il va falloir. Voilà, c'est un char, effectivement. Oui, il y a un personnage qui est dans le char. Derrière lui, il y a quelqu'un qui tient une couronne de laurier au-dessus de sa tête. Hein. Voilà.
Il y a un blason.
Il y a un blason. Donc c'est une pièce qui est aussi héraldique. Bravo. Bah oui, quand on n'a pas des juments, mais des femmes. Ça me paraît clair.
Et puis, il y a l'amour derrière.
Il y a un petit amour ici, oui.
Et en haut, il y a l'angelot.
Qui vise quoi.
Là où il y a un petit angelot, oui. Ça, ce personnage, tout en armuré, ça peut être qui
Mars.
Ça peut être Mars. Je ne vous demande pas où et quand, parce que je sais que ça va me créer des problèmes. Donc, j'enchaîne.
Ça, c'est pas ici.
Ouais, la palissie qui réapparaît.
Ah oui, ça, c'est palissie.
Donc, palissie. Très bien.
Oui, parce qu'il y a
des animaux, palissie.
Des grenouilles, des tortues.
Un petit serpent, un autre.
Non, c'est l'anguille.
Non, mais il y a un serpent là.
Et au-dessus,
et là aussi.
Et puis il y en a un entortillé là-dessus.
Il y a des écrevisses, des anguilles. C'est pas
marrant. Ça, c'est un serpent, hein, ça. Pas une anguille.
mais il y a des vipères dans
l'eau. Oui, mais c'est vipères.
Ah, bah oui, ouais,
des vipères
bien sûr.
L'eau.
Ah, bah bien sûr.
Ah, oui, les vipères, elles.
Ah, bah elles vont partout. Dans l'eau, dans la terre, partout. Ouais, bien, ah, pas ici. Donc, si je reviens ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est France 15 ou 16e siècle. Ah, on respire.
Ah, tiens, marrant.
Ah, 19e.
Il y a une technique brillante. Alors là, je ne sais pas comment elle s'est faite.
Ça, c'est brillant, j'ai une technique un peu plus.
Il y a un brillant spécial.
Ouais, ouais.
C'est pas un brillant ordinaire.
C'est pas un brillant ordinaire. C'est pas ça. Ouais, c'est pas celui de l'émail habituel, quoi. Oui, c'est vrai. Vous verriez ça où ?
Un peu oriental.
Un peu oriental. Bah tiens, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mmh.
Ouais, oriental d'Europe, hein.
Oriental d'Europe. Donc ça nous ramène où ?
L'Espagne.
L'Espagne. L'Espagne. Donc ce serait peut-être ça aussi espagnol.
Ce qu'il y a au milieu.
Deux poissons.
Deux petits poissons. Parce qu'au milieu, vous savez, il y a quelque chose d'un peu qui remonte et puis qui a un descente, ce qu'on appelle un ombilique, vous savez.
Ah oui, mais
c'est vivant. Et le centre de l'ombilique est décoré de deux poissons. Il faut bien mettre quelque chose, il y a deux poissons.
Non, mais c'est le signe du zodiaque, le signe de poisson. Peut-être qu'il y a d'autres assiettes avec le signe.
Peut-être. C'est possible. C'est possible. Ça peut aussi avoir une dimension héraldique ou une dimension simplement décorative. Tout est possible.
C'est une décomposition avec un marqué en bois.
Pardon ?
Ce sont des lettres.
Ici, oui. À votre avis, oui. Qu'on trouve là.
Oui, c'est des lettres.
Ah oui, c'est tout autour.
Oui,
mais
on ne peut pas lire.
Donc, il y aura des lettres, mais on ne peut pas lire.
C'est difficile. Pas de chance.
Pas de chance.
C'est creux.
Allez, encore deux, trois, et après, on fait le débrief, comme on dit vulgairement.
Une scène unique.
Une scène unique. Près de l'eau.
Il y a un musicien.
Il y a des faunes.
Il y a des gens qui écoutent tout autour, oui.
Oui, oui.
C'est qui le musicien ?
C'est des gens étranges quand même à droite.
Oui, des gens étranges.
C'est,
des faunes. Ben, c'est un faune qui a des pattes de bouc. C'est vrai que c'est étrange.
C'est Pan.
C'est peut-être Pan.
Ah, oui, mais il n'y a pas la flûte.
Il n'a pas la flûte.
Il n'a pas la flûte. En tout cas, c'est un satyre.
C'est un
satyre.
Il y en a deux.
Il y en a, oui. Oui, il y en a plusieurs. Alors, ça peut être qui ce personnage qui joue au centre ?
Ça peut être Orphée.
Ça peut être Orphée. Il y a d'autres solutions encore ?
D'autres solutions encore ? Qui joue de la musique ?
Oui.
Il y a Apollon.
Apollon.
Bon. Il y en a plusieurs.
Une espèce de violon, comme
ouais.
Il y a un gros violon, c'est pas bizarre.
Oh, bah, il a les moyens de se l'offrir, hein. Apollon.
Et puis le vieux sur le côté. Là.
Bah oui, bah faut bien qu'il y ait un public.
Il écoute la musique.
Bah voilà, il écoute la musique. Bon, c'est où, c'est quand ça ? Je me risque quand même.
Risquer où ? Pas sûr.
On va faire chou blanc
encore. On va faire chou blanc. Alors, on va peut-être y voir plus clair avec ça.
Alors là, l'albar est là-bas.
Ah, ça, c'est un albar. Hello.
Ah oui, c'est vrai, c'est un albar. Un pot pharmacie.
Hein ? Ouais. Un pot à pharmacie. Ouais. Décoré.
En faïence.
Alors, en faïence, deux grands feux, à décor polychrome.
On retrouve toujours un soldat, comme tout à l'heure.
Un soldat ?
Ah, c'est une couronne, hein ?
Un chapeau, genre,
il est profil, comme un chapeau.
Ouais, c'est un chapeau avec, des espèces de décors d'enroulement.
Non, c'est pas un homme du peuple.
C'est pas un homme du peuple.
Espagne.
Espagne.
Ouais.
C'est trop beau pour l'Espagne, mais c'est sympa.
Oh bah oui.
C'est
ça. Ça.
Bon allez, je vous montre la dernière pièce.
Ah, c'est la belle Julie. La belle Julie.
Voilà, la belle Julie. Julia Bella. Ça vous...
Alors, c'est italien.
C'est italien.
Ah, c'est italien.
C'est
ironique parce qu'elle n'est pas très belle, c'est ça ?
Oui, elle a une poitrine. Déjà, c'est exagérant.
Non, ça fait penser aux dames belles, aux belles les donnes et aux belles dames. Vous aviez montré les chevaux avec Fajan. Oui, il y avait toute une série comme dames, ça, de belles dames.
De belles les donnes.
Et ça ressemble à ça. Ça
ressemble à ça. Donc, ce serait italien.
Oui.
Et quand 15e, 16e. Bien. Bon, il nous reste 10 minutes pour. Ouais. Ah oui, ça passe vite. Il nous reste 10 minutes pour essayer d'y voir plus clair. On en a regardé 25 diapos, mine de rien. Et je vous avais. Ouais. Et je vous avais mis en vrac toute une série de pièces qui correspondent en fait peut-être à chronologiquement, hein, au début de cet art céramique en Europe occidentale. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure et on va essayer de reconstruire un peu tout ce qu'on a vu. Une épée les plus anciennes, c'est celle-là. C'est une œuvre, alors on avait parlé de tout et même de l'Angleterre, en fait c'est typiquement italien. Ça c'est Faenza. Bah, on ne peut pas imaginer mieux, hein. C'est là en Europe, l'un des lieux où on invente la faïence. Ça date du 15e siècle, vous aviez parlé au départ évidemment du lion, là on peut aussi dire qu'il est rampant. Hein. Et c'est une figure évidemment tout à fait héraldique, hein. Qui vient qui est sorti d'un blason, si j'ose dire. Mais vous savez, le lion, c'est un lion qui est, c'est un animal qui est, comment dire, très, très pratique, quoi. Vous voulez montrer l'idée de puissance, vous mettez un lion sur un plat, ça marche. Ce lion, c'est le roi des animaux, donc c'est génériquement l'idée de la puissance. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lion dans vos armes, vous le faites mettre sur un plat et tout de suite, ça vous pose, quoi. Donc on a là un lion, effectivement, héraldique, qui apparaît dans une assiette faite à Faenza au début du 15e siècle. Donc on est là dans les... Bon, les plus anciennes faïences en Italie, c'est deux siècles avant, c'est le 13e siècle. Hein. Mais enfin, au 15e siècle, un centre comme Faenza est vraiment le grand centre de la faïence en Italie et qui est en pleine possession de son art. De Faenza aussi est cette Julia Bella que vous avez vue. Alors, évidemment, vous avez raison, hein, on a beaucoup aimé en Italie au XVe siècle réaliser des figures féminines comme ça, qui sont ce que vous disiez, les belles donne. Hein, on a beaucoup aimé en Italie au XVe siècle faire des assiettes figurant des belles dames. Alors, aujourd'hui, elles sont plus ou moins belles parce que nos goûts ont changé, hein, mais des femmes en buste, souvent de profil, hein, comme dans les médailles, comme en fait, ce qu'on appelle les médailles, c'est des pièces de monnaie. Hein. Mais les impératrices antiques étaient toujours représentées de profil. Et donc on reprend cette idée-là et on représente ces belles dames, alors qui quelquefois sont clairement indiquées, quelquefois on les reconnaît, hein, c'est une telle, quelquefois c'est plus générique, Julia Bella, des Julia, dans la vie, il n'y en avait pas une seule, à Faenza ou en Italie à l'époque, hein, et quelquefois c'est simplement Bella Donna, hein, belle dame. Voilà, donc si vous voulez, c'est plus ou moins identifié. L'idée de montrer une belle dame de profil sur ces pièces. Là, vous avez une pièce réalisée à Faenza. On sait même l'atelier. Alors, ça, je vous l'ai mis parce que c'est mieux de le savoir, mais aussi pour vous montrer que les études sur ces céramiques italiennes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance sont des études qui ont été maintenant très élaborées. Maintenant, on arrive, pas toujours, mais parfois, à identifier jusqu'à l'atelier qui a produit les pièces. Alors, voilà, je voulais indiquer, non pas pour vous rappeler de ce Bergantini, par exemple, mais pour bien qu'on voit, hein, parfois on arrive à un degré assez précis de connaissance. C'est une œuvre qui date du XVIe siècle, hein, voilà, et c'est une œuvre qui représente le Marcus Curtius. Alors, Marcus Curtius, je ne me rappelle plus exactement de son histoire, mais c'est un héros antique. Et la légende veut qu'un jour, il y a effectivement un tremblement de terre absolument épouvantable, hein, tout s'écroule, etc. La terre s'ouvre. Il faut calmer les dieux. Et Marcus Curtius, n'écoutant que son courage, va décider de se sacrifier pour les dieux, si vous voulez, et pour stopper ces désordres de la terre. Et avec son cheval, il va se précipiter dans le gouffre de la terre. Donc c'est ce que vous avez là. Vous avez le héros qui tombe dans le gouffre et qui ainsi sauve le monde. Et donc, ce genre de décor qui représente une histoire, et on en a d'autres, hein, on appelle ça des décors a historiato. Voilà. C'est vraiment un mot italien, mais qu'on utilise pour ce genre de décor, avec tout autour des trophées. Hein. Ces trophées, on les appelle, j'aurais pu le mettre d'ailleurs, atrophéi, des décors de trophées. Donc là, c'est un décor au centre, à Historiato, et sur le Marly, à Trophée. Alors, c'est des trophées plus ou moins militaires, qui quelquefois évoquent aussi la musique que c'est encore. Et là, on a une œuvre assez typique de Faenza, avec tout autour des personnages.
Voilà, dont
on...
qui,
alors, à vrai dire, c'est pas forcément quelqu'un. Enfin, c'est des personnages, mais c'est pas forcément des figures célèbres. Il y a quelquefois un côté un peu flottant dans ces faïences de la Renaissance italienne, qu'on appelle souvent des majoliques. Vous connaissez ce mot-là ? Pourquoi est-ce qu'on les appelle majoliques souvent d'ailleurs ? Ça vient de Majorque, effectivement. Majorque, ce n'est pas en Italie, c'est dans les Baléares. Hein. Tout simplement parce que les Baléares étaient un lieu à la fois de fabrication de céramique et un lieu par lequel passaient beaucoup de céramiques, ce qui fait que, notamment, allant en Italie. C'est pour ça qu'on a appelé ces céramiques, en gros, les céramiques primitives en Europe occidentale, on les appelait souvent des majoliques, en référence à Majorque, qui est un lieu effectivement de fabrication, l'île de Majorque, mais aussi de diffusion, un lieu par lequel arrivaient d'Espagne des céramiques qui allaient ensuite en Italie, ou des céramiques qui venaient d'Italie qui allaient en Espagne. Majorque, c'est un lieu, si vous voulez, à la fois de transit et de fabrication. Ça, c'est également Faenza, on connaît l'atelier. Alors ça, c'est un type de décor qui vous a beaucoup surpris tout à l'heure, un décor effectivement assez virtuose au niveau de la forme, mais même quand même au niveau de la manière de faire. Et quand je faisais la comparaison entre le dessin et ça, c'est vraiment ça l'idée. En fait, ce genre de pièces-là avait pour but, dans des buffets sur lesquels, quelquefois, vous aviez des scènes très chargées, hein, de créer un peu de respiration. Hein. Là, vraiment, ce qui compte, c'est aussi la beauté de l'émail blanc, si vous voulez. C'est ça qui compte. Hein. Pas seulement d'avoir des trucs chargés, historiato, etc. On appelait ça des décors a compendiario. Hein. Ça correspond donc à ce type de décor où on a un petit dessin très, vous l'avez dit, très vivant, hein, comme un petit crevard, quoi. Si vous voulez, ça, là, ce qui compte, c'est la beauté de la forme, vous l'avez vu, la beauté de l'émail blanc, hein, qui, encore une fois, frappe au milieu de décors beaucoup plus chargés, et puis le côté preste du décor, à compendiario, qui est au centre. Hein, voilà. Donc, très typique de Faenza. Là, on a une pièce qui vient d'un autre centre, Deruta, enfin ça c'est plutôt au nord-est de l'Italie, là on est plutôt au centre. Deruta est un lieu où on a beaucoup produit de faïence, un grand centre faïencier, notamment au XVIe siècle. Hein. Et là vous voyez justement une belle dame, alors elle s'appelle Candida en fait. Hein. Le D faut le compter deux fois, hein. Candida avec un H. Bon, peut-être qu'on l'écrirait sur H aujourd'hui, mais enfin là il y en a un, alors mettons-le. Hein. Alors ça fait partie de ces belles laidones qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a fait à Faenza, qu'on fait à Deruta. Et Deruta se signale beaucoup par ses grands plats avec ce genre de décor tout autour. Hein. D'ailleurs, on va en voir un autre hein, que vous connaissez. Vous l'avez d'ailleurs rapproché tout à l'heure. Hein. C'est la fameuse Vierge et l'Enfant. Vous avez le même genre de truc. Mais c'est également notre Yuda Maccabée qui est là. Hein. Ça, c'est aussi Deruta. À Deruta, on a fait beaucoup, beaucoup de ces figures de cavaliers comme ça. Hein. Souvent, il y a des morts hein, avec des traits très orientaux. Hein. Là, c'est Yuda Maccabée qui est évidemment une figure de l'Ancien Testament. Et ce genre de grand plat comme ça, avec un marli très important, etc., c'est très typique de Deruta, 16e siècle. On est vers 1520 à peu près. Là, il y a une pièce qui vous a beaucoup dérouté.
Oui.
Là, de l'humour avec des routards, sauf que ça s'est fait à Urbino. Et c'est une pièce, alors pas du tout allemande, du XVIe siècle, tout à fait italienne. C'est une majolique aussi, hein. Et ça représente la création de l'homme. Parce que vous avez vu les animaux, vous n'avez pas vu que là, il y avait un homme couché, hein, et nu.
Ah oui.
Et en fait, ça, c'est Dieu. S'il y a le soleil et la lune, c'est que, au moment de la Genèse, Dieu crée la lune, le soleil, l'eau, la terre, les animaux et l'homme. En fait, c'est la création du monde, et la création de l'homme, en l'occurrence. Et tout autour, vous avez donc, effectivement, au centre, un décor à historiato, hein, et tout autour, un décor à grotesque, de grotesque, comme vous le disiez tout à l'heure. Pour reprendre ce que vous disiez, justement, il se trouve que, dans l'Antiquité, notamment au 1er siècle de notre ère, on a beaucoup allé à Pompéi, mais à Rome, hein, vous verrez des peintures murales qui présentent des décors de ce genre. Hein. Il y a des espèces de décors assez fluets, très élégants, très géométriques. Hein. Et ça ornait les villas, etc. Dans la Domus Aurea de Néron à Rome, qui était un immense palais que Néron s'était fait construire, il y avait beaucoup de peintures murales comme ça. Alors évidemment, à la Renaissance, tous ces lieux-là sont plus ou moins détruits, enfoncés dans le sol, etc. Mais il se trouve qu'au XVIe siècle, un peu par hasard, on découvre un jour la Domus Aurea de Néron, tout cas ce qu'il en reste. Hein. Et on découvre des peintures comme ça. Hein. Et puisqu'on découvre la douce oreille de Néron, effectivement, en creux, comme des grottes dans le sol, si vous voulez, on va appeler ces décors des grotesques. Parce que c'est comme dans des grottes. Alors, je dis, la Domus Aerea était en partie au-dessus du sol, en partie en dessous du sol. Hein. Mais à la Renaissance, le sol de la ville l'ayant monté, si vous voulez, il faut descendre pour aller dans les Domus Aerea. Donc, on appelle ces décors qui ont les murs des grotesques. Parce que c'est comme dans des grottes. Des grottes qui ne sont pas forcément des grottes, mais qui se le sont devenues du fait de l'évolution du temps. Alors, ces grotesques ont eu énormément de succès. Et là, vous voyez comment, à Urbino, au milieu du. Enfin, fin 16e, on les utilise. C'est également à Urbino qu'on a fait, par exemple, ce décor, à Historiato, qui représente effectivement au centre Apollon. Le faune qui est là, c'est sans doute Marsyas. Vous savez que Apollon et Marsyas se sont affrontés dans un concert. C'est d'ailleurs Marsyas qui a plus ou moins gagné. Apollon a été tellement furieux qu'il a ensuite écorché Marsyas. Hein, parce qu'on ne peut pas être plus doux qu'Apollon. C'est un problème de bon goût. Donc ça vient d'Urbino. Autre œuvre venant d'Urbino, toujours un décor Historiato, vous avez raison, c'est bien le char de Mars. Hein, voilà. Il y a des armes. Hein, vous voyez qu'il y a une sorte de communauté d'esprit hein, entre ce qu'on a vu avant, Apollon et ça. Toujours des scènes mythologiques, et puis il y a des scènes religieuses chrétiennes, je dirais. Hein. Voilà, on est dans l'Italie, au milieu du XVIe siècle. Hein, voilà. Autre exemple, cette fois, d'un site qui s'appelle Castel Durante, hein, Urbino, Castel Durante, Faenza, tout ça c'est des lieux Deruta, c'est des lieux qui ont été de très grands centres faïencés au XVIe siècle, hein, et vous voyez que c'est toujours un peu la même chose finalement entre ces centres, hein, même s'il y a des singularités, vous rappelez, hein, Deruta, hein, vous rappelez, le Marly, etc., hein, on arrive à les reconnaître, vraiment quand on le voit beaucoup, on dit oh, ben, ça c'est Deruta, ça c'est Castel Durante. Au bout d'un moment, on s'y retrouve. Hein. Et là, vous voyez au centre un décor à Historiato. Maintenant, on connaît le truc. Hein. Tout droit décor à Trophéi. Pas de problème. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup hésité sur ça, et vous aviez raison. Parce que très souvent, les artistes qui réalisent ça, eux-mêmes hésitent un peu. Parce que, est-ce que c'est un dieu fleuve ? Oui. En étant sur la mer, donc c'est plus un dieu fleuve. Et si vous voulez, les artistes qui font ça souvent un peu vite, et ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font. Alors là, ils font un dieu fleuve, mais ils mettent au milieu de la mer. Ce qui ne va pas, si vous voulez. Ça foire, quoi. Et ce que vous aviez vu, vous avez raison, hein, c'est en fait ce que l'on voit très souvent sur les tritons. Les tritons, très souvent, d'abord, ils ont quelquefois des nageoires au pied, mais ils ont aussi des espèces d'algues qui envahissent leur corps, ils ont sur la tête. Donc en fait, c'est une sorte de triton, mais qui joue au dieu fleuve, mais au milieu de la mer. Donc, si vous voulez, c'est une iconographie pas très bien comprise. Parce que souvent, les artistes qui font ça, assez vite, ont des modèles, mais qu'ils interprètent mal. Parce que les gens qui faisaient, quelquefois, ne savaient pas trop lire, pas trop écrire, c'était pas des grands intellos. Hein. Il n'y a pas que des peintres immenses qui font ces peintures. Hein. Il y a quelquefois des artistes un peu basiques. Hein. C'est qu'il faut en produire. Hein. Donc, si vous voulez, quelquefois, on fait un dieu fleuve, puis on le met dans la mer avec une courgette. Enfin, voilà. C'est plus ou moins réussi. Hein. Voilà encore, à Castel Durante, Una Bella Donna. Hein, voilà. Là, c'est une jeune femme, voilà. Vous voyez que tous ces centres hein, font des choses qui se répètent un peu d'un lieu à l'autre, avec une stylistique un peu différente, mais toujours le même type de décor. Et là, je vous remontre le fameux pot couvert, qui représente en fait certainement la fortune. Hein. Fortuna, les éléments fortune, il y a deux manières de la présenter. Soit on la représente sur une roue, parce que la roue tourne, hein. C'est ce qui évoque l'évolution du destin. Soit on la représente comme ça, avec une sorte de voile, parce que le vent vous mène là, puis là, puis là. Si vous voulez, c'est le destin. Donc, c'est le destin, ça vous mène un peu là où le vent vous mène. Hein. Voilà. Donc c'est une représentation de la fortune, on devrait dire d'ailleurs de fortune. On met souvent la fortune, mais on a un peu tort. Et ça, c'est également Castel Durante, on connaît l'atelier, et toujours ce décor à Trophéi tout autour. Pas toujours. Non, pas toujours.
C'était plus récent.
Ouais. C'est vraiment plutôt le style de la pièce qui permet de le savoir, puisque quelquefois ça arrive, c'est très rare. Quelquefois il y a, mais c'est pas fréquent.
Comme Capodimonte, c'est une couronne.
C'est ça, mais ça ce sera beaucoup plus tard.
Ah oui, c'est plus tard.
Là voilà Gubbio, avec effectivement un petit décor de Pluton. Alors là c'est pareil, c'est un Pluton, mais il tient une flèche. en même temps il n'a pas d'aile. Vous voyez, encore un de ces décors un peu mal compris. C'est Cupidon, mais ce n'est pas Cupidon puisqu'il n'a pas d'aile, et pourtant il a une flèche, donc c'est Cupidon quand même. C'est un peu comme notre dieu fait tout à l'heure, c'est assez mal compris parce que ces gens-là font des trucs, ils savent les faire, mais quelquefois ils ne maîtrisent pas vraiment l'iconographie. Ça, c'est une production très typique de Venise. Hein. Venise, à la fin du XVIe, elle multiplie ce genre de choses. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, c'est, plaf, c'est Venise. Hein. C'est-à-dire des choses assez presto. Hein. Et souvent des gros médaillons comme ça, toujours avec les mêmes couleurs, par exemple des soldats, des moines, que sais-je encore. Hein. Là, vous aviez raison, dans la pièce suivante, de voir une chose un peu spéciale. D'abord, c'est plus tardif, vous l'aviez vu. On est au XVIIe siècle. C'est fait ça à Montelupo. C'est-à-dire, on n'est pas très loin de Florence. Hein. Et effectivement, on est là dans quelque chose d'un peu plus populaire, d'un peu plus naïf, vous l'avez bien vu ça tout à l'heure. Hein. Donc quelque chose qui est un peu moins savant, même si quelquefois les sauces savantes, on a vu qu'elles étaient un peu... Hein, mais un peu moins savant que ce qu'on a pu voir antérieurement. C'est encore de la majolique, ça vient, en, je dirais, en, vous voyez, dans la lignée de ce qu'on a vu avant, mais c'est quelque chose de moins savant qu'on a vu précédemment. Idem là, on a quelque chose de savonne, c'est du 17e, c'est plus tardif. C'est un moment où, si vous voulez, l'art de la majolique en Italie devient une espèce d'industrie qui s'essouffle un peu. On en produit beaucoup, on fait un peu tout et n'importe quoi, dont ça. Ce truc avec ce paysage, vous avez vu qu'il était un peu... Ça allait dans tous les sens. Idem pour ce personnage dont on ne sait pas ce qu'il fait, alors il ne fait rien. Ça, c'est... Alors, c'est très vite fait, vous voyez, on fait ça en 10 minutes, quoi. Puis paf, ça passe au four, c'est réglé. Idem d'ailleurs pour ça, alors là, c'est encore plus tardif. C'est toujours de ces majoliques faites en Italie, mais plus tard. La grande période de la majolique italienne, c'est quand même les 15e et 16e siècles. Hein, voilà. Alors ça continue après, mais ça s'essouffle un peu. Mais alors il y a des centres qui continuent d'être importants, Savone, Castelli. Mais Castelli a fait des quantités d'acétanessaires comme ça, si j'ose dire. Vous avez des paysages, mais regardez le temple à gauche, ça ressemble à rien. Enfin, quand vous regardez, c'est complètement... C'est fou, quoi. Enfin, il n'y a pas de perspective. Voilà. Alors, c'est très marrant, hein. C'est très beau, et voilà. Hein. D'accord. Hein. Mais si vous voulez, c'est pas du tout logique, pas réaliste. Voilà. Mais ce qui est beau, évidemment, c'est l'ambiance, c'est ce qui sort de tout ça, c'est le chromatisme. Etc. Mais l'architecture est complètement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que un certain nombre de ces Italiens, voire de ces Espagnols, hein, qui ont travaillé dans le sud de l'Europe, sont venus ensuite s'installer en France. C'est le cas d'un artiste qui s'appelle Maceo Abaken, qui est venu s'installer à Rouen, et qui, à Rouen, dès le XVIe siècle, a créé un atelier. Ce qui fait que, si vous voulez, les majoliques du sud de l'Europe, notamment d'Italie, ont essaimé en France. Vous avez donc des majoliques à Rouen. Voilà un très beau pot de l'atelier de Maceo Abaken, mais vous en avez également à Lyon. La chevrette que je vous montre est typique des ateliers de majoliques lyonnaises du XVIe siècle. Au musée d'Autun, il y a une cinquantaine de pièces comme ça. Je serais surpris qu'il n'y en ait pas ici à la Boutiquerie de Chalon. Hein. Des chevrettes comme ça, on a fait des quantités à Lyon au XVIe siècle. C'est des belles pièces de majolique françaises, mais réalisées souvent par des Italiens établis en France.
Et l'anneau, il servait à quoi ?
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'était peut-être parce que quelquefois, on avait affixé un bouchon et que c'était une bannière d'attacher le bouchon. Voilà. Mais c'est de la conjecture. Ce qui est vraiment quand même, il faut... Souvent, il y avait un couvercle, hein, qui pouvait être un couvercle de peau qu'on cerclait. Hein, et il fallait un bouchon, ben, le bouchon, il ne fallait pas qu'il tombe. C'était une manière de l'accrocher. Je crois que c'est ça, mais je ne te le jure pas. Et on a en Bourgogne un lieu très important, hein, pour la faïence, dont on reparlera, hein, qui a débuté avec des Italiens, c'est Nevers. Hein, et ça, c'est une pièce de Nevers. Quand on le voit, on se dit, c'est une pièce italienne. C'est pas étonnant, parce que c'est fait par des Italiens, Italiens de Nevers. En fait, très très tôt, hein, les Italiens émigrent en France et font en France de la majolique. Donc on a des majoliques, et encore, je ne vais parler que de Rouen, que de Nevers, que de Lyon, il y a d'autres centres encore, Nîmes, etc. Et puis, enfin, on a évoqué des pièces comme celle-là, qui sont effectivement avec une technique particulière, qui est celle du lustre. Le lustre métallique qui rappelle un peu le cuivre. C'est une technique bien particulière qui vient des Arabes. Et vous aviez raison, parce que voilà une pièce faite en Espagne, à Manises, au Baléares. Et une pièce complètement, effectivement, dérivée de la faïence arabe. D'ailleurs, vous avez non seulement là des éléments qui font penser, hein, au décor, des mots carnasses, etc., mais vous avez même de la fausse écriture arabe. Les gars qui faisaient ça, qui comprenaient absolument pas l'arabe. Ils essayaient d'en écrire, puis puisque c'était joli et décoratif, bah, ils en faisaient. D'ailleurs, vous avez exactement la même chose dans l'autre pièce de Manisès que je vous ai présentée, et vous l'avez vu, d'ailleurs, vous avez dit, mais il y a des trucs décrits. Sauf que ce qu'on appelle du faux koufique. Ça ressemble au caractère koufique, sauf que ça ne veut rien dire. Vous savez, c'est que les gens qui font des hiéroglyphes et qui ne savent pas trop les faire. Voilà. C'est pareil. Donc, c'est, ça vient. La technique vient des Arabes qui ont été très tard en Espagne, je vous rappelle, hein, mais qui ont amené avec eux leur technique, dont cette technique de la faïence à décor lustré. Et là, en plus, on imite, effectivement, avec notamment les feuilles de, les plumes de pan, etc., on imite les faïences arabes. Et puis enfin, il fallait évidemment dans cette séance sur l'art de la céramique tour en Europe occidentale, et on a vu quelquefois comment ça se prolongeait plus loin, notamment en Italie au XVIIe et XVIIIe, il fallait effectivement parler de Bernard Palissy, hein. Et vous aviez là ce qu'on appelle les rustiques figulines. Figuline, ça veut dire, en fait, ce qui a trait à la céramique, ça ne veut pas dire figurine, hein, figuline. La figuline, c'est ce qui a trait à la céramique. Et là, puisque Bernard Palissy s'est intéressé à des éléments qui ont des coquillages, etc., c'est rustique, on appelle ça des rustiques figulines. C'est comme ça qu'on appelait les céramiques faites par Palissy et son atelier au XVIe siècle. Il s'agit bien du XVIe siècle. Hein. Vous savez que Bernard Palissy, souvent en faisant ça, car ces pièces semblent pouvoir lui être attribuées, il moulait des vrais animaux. Hein. Il moulait des serpents, il moulait des crabes, il moulait des tortues, etc. D'ailleurs, le plat lui-même a la forme d'une carapace de tortue tournée. Ok. Donc ça, c'est une rustique figurine de Bernard Palissy de son atelier. Très, très beau travail. Hein. Alors, il y a eu beaucoup d'imitateurs, etc. Et vous aviez raison, ça aussi, c'est palissesque. Vous aviez raison. Hein. Ça, c'est effectivement une œuvre qui est tout à fait palissesque. Bernard Palissy, on le connaît par les rustiques figurines, les crabes, les serpents, etc. Mais il a fait également, et ses continuateurs aussi, il a fait, et notamment à Avon, près de Fontainebleau, hein, un lieu qui était très là-dessus, école de Fontainebleau oblige, hein, et on a fait beaucoup de choses comme ça, en terre cuite glacurée, comme la pièce précédente, hein, voilà, et qui ont prospéré. Ça, c'est, j'allais dire, une production très très spécifique que l'on trouve en France, à Avon, dans l'optique de Bernard Palissy au XVIe siècle. Voilà.
Wow,
hein, ben, bravo. Hein. Aujourd'hui, on a dû broussailler, mais je pense que maintenant, vous aurez vraiment en tête ce que c'est qu'une majolique italienne. Ouais. Je crois qu'on en a vu. Hein. Je vous ai choisi des pièces vraiment caractéristiques. Hein. Je crois que là, on voit bien ce que c'est qu'une majolique italienne. On voit qu'il y a des majoliques hors d'Italie. Hein. Et je crois aussi qu'on voit quand même quels sont maintenant les répertoires, les trophées, les belles les données. Je crois que maintenant, voilà, vous saurez reconnaître ça. Mais la fois prochaine, on va autre chose. Et voilà, puisque c'est comme ça.
Ça sera quand ?
Jeudi à 11 janvier.
Bonjour, la prochaine fois.
Ouais.
C'est marqué.
Ah,
c'est bien. Oui, c'est ça.